Et tu me gardes le meilleur pour la fin ?
Toujours Mimi, comme le best-of du vendredi.
La JT du local, c'est un drôle de rendez-vous qu'on se donne ensemble depuis un certain temps. Le lundi, pareillement, on se dit qu'on a de la marge, qu'on a le temps de voir venir, et puis voilà. On ferme les yeux une seconde et déjà, le vendredi se tient là. Le vendredi, c'est le vieux copain qui arrive trop tôt à la fête. Et oui, le temps, on dit qu'il passe, mais peut-être que c'est nous qui passons, qui filons, qui courons sans arrêt. Alors avant de basculer vers ce week-end qui nous prend par surprise, je vous propose un petit arrêt sur image. Le best-of de la JT du local, que ce soit un peu comme une poignée d'instants qu'on retient un peu plus longtemps. Aujourd'hui, on revient sur l'entretien de mardi. Souvenez-vous, nous parlions démocratie et éducation populaire.
La JT du local, c'est un peu comme toi, indispensable.
Alors on parle souvent de fracture sociale, de décrochage citoyen d'une société où l'on ne se retrouve plus toujours, mais il existe aussi des espaces qui cherchent à recréer du lien, à remettre de la confiance et du collectif dans nos vies. C'est ce que propose justement le Festipop, premier festival de l'éducation populaire organisé le 27 septembre à Laval. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Florine Olivier, chargée de projet jeunesse à la Ligue de l'enseignement, l'une des structures à l'initiative de l'événement. Bonjour Florine.
Bonjour.
Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler ce qu'on entend par éducation populaire et pourquoi ce terme est encore d'actualité et hyper pertinent aujourd'hui ?
L'éducation populaire, c'est l'idée que chacun et chacune, tout au long de sa vie, peut apprendre, transmettre, s'émanciper en dehors du cadre formel. C'est ce qui guide la Ligue de l'enseignement depuis 150 ans. À l'échelle nationale. Donc c'est une vieille association, la Ligue, qui est implantée en Mayenne depuis 1946. L'éducation populaire, c'est l'idée de former les citoyens et citoyennes pour qu'ils soient et elles soient capables d'esprit critique, de solidarité et d'action.
Et alors, d'où est venue l'idée d'organiser justement le Festipop ici à Laval et qu'est-ce que la Ligue a voulu créer à travers ce rendez-vous ?
Mais en fait, ce Festipop, il a été imaginé en juillet 2023 lors d'un séminaire interne de la Ligue de l'enseignement FAL 53. Il a été co-construit ensuite avec la ville de Laval, notamment par le biais de la maison de quartier du Pavement, qui est très investie dans le projet depuis ses débuts. Et puis également par d'autres associations d'éducation populaire en Mayenne, comme les Francas, Culture du Cœur, Monde de Femmes, les PEP 53, Accueil et Espoir 53, et également le Conseil citoyen de la ville de Laval. Donc toutes ces personnes regroupent des associations, des collectivités, des habitants qui ont à cœur les mêmes objectifs. Ce sont ceux donc de promouvoir l'éducation populaire pour mieux comprendre ce qu'elle recouvre et reconnaître son rôle citoyen et politique encore actuellement. L'idée aussi, c'était de valoriser les initiatives locales de transmission, de savoir et de savoir-faire. Il y en a beaucoup. Et elle contribue à mailler le territoire d'initiatives solidaires et d'éducation populaire, finalement, sans forcément le savoir. Et l'idée, donc, comme je l'ai dit en nommant les différents protagonistes de cet événement, c'est de fédérer les structures autour d'un événement collectif.
Et alors le rendez-vous qui nous est donné, c'est donc le samedi 27 septembre à partir de 10h30 et ce jusqu'à 18h, place Mettmann à Laval. Concrètement, qu'est-ce que les habitants donc, vont pouvoir découvrir le 27 septembre ?
Eh bien, tout d'abord, il y aura un vide-grenier. En fait, ce vide-grenier était habituellement organisé par l'association KFD qui a été dissoute cette année. Et lors de rencontres d'habitants cette année, on s'est rendu compte que c'était un événement assez précieux et il y avait vraiment le souhait de poursuivre cette année. Donc l'association Monde de Femmes, qui est présente sur le quartier, notamment avec la boutique Troc, va reprendre cet événement. Donc ça sera dès 8h30 le 27 septembre. Et puis on va proposer également un village associatif et citoyen qui regroupera des ateliers, des animations, des rencontres dès 10h avec notamment des habitants qui proposent des ateliers de réparation de vélos, de construction de nichoirs, ateliers couture, des associations qui vont proposer un village des enfants, de la teinture sur tissu. Voilà, par exemple, des exemples d'ateliers qui auront lieu cette journée-là. Et puis, à partir de 11h30, il y aura une agora qui va durer un peu toute la journée sous la forme de tables rondes et de témoignages qui permettra de discuter de manière participative de l'éducation populaire et de thématiques aussi qu'on a choisi d'aborder plus précisément. Et puis enfin, on va clôturer l'événement par un concert d'une demi-heure de Pouvoir d'agir dès 17h.
Justement, je le disais en introduction un petit peu de cet échange avec toi, on vit dans une époque où beaucoup parlent de fracture sociale, de décrochage même démocratique. Pour toi, en quoi l'éducation populaire peut être une réponse justement à ce contexte-là ?
Bien, l'éducation populaire, c'est une réponse aux défis présents. On le voit depuis le début de l'histoire de la Ligue de l'enseignement. Si j'ai le temps de faire un peu, de retracer un peu l'histoire de la Ligue au cours du 19e siècle, la Ligue de l'enseignement, ça a commencé par cette pétition par Jean Massé pour une instruction gratuite, obligatoire et laïque qui a regroupé 1 300 000 signatures quand même en 1866. Et puis derrière, la Ligue s'est positionnée autour des lois 1901 sur les associations, la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Après la guerre, c'était la Ligue a contribué au développement des temps périscolaires, de l'école républicaine, des colonies de vacances pour permettre à un plus grand nombre d'enfants de partir. Bon, les enjeux ont changé, mais la logique reste la même. Aujourd'hui, l'éducation populaire, elle permet de répondre aux défis du présent. Aujourd'hui, on travaille sur le numérique, l'éducation à son usage pour un meilleur accès aux droits, sur la parentalité numérique, sur la prévention du harcèlement, la lutte contre les discriminations. Donc c'est autant de thématiques qui nécessitent de faire du lien, de permettre aussi aux personnes de mieux comprendre pour mieux agir et pour mieux s'émanciper. L'éducation populaire répond aussi aux besoins des habitants concrètement. Quelles sont les envies, quelles sont les attentes, quelles sont les problématiques et l'idée, c'est d'apporter des réponses collectivement, donc en dotant les premiers intéressés d'outils pour relever eux-mêmes lever leurs freins eux-mêmes, quoi. Voilà un peu pourquoi je dirais que c'est important aujourd'hui. Et néanmoins, l'éducation populaire, les associations d'éducation populaire aujourd'hui font face à des difficultés, notamment liées aux subventions de fonctionnement qui se tarissent. Il y a de plus en plus l'injonction à répondre à des appels à projets, à des appels à d'offres, ce qui nous contraint parfois à moins expérimenter, à avoir moins de liberté d'innovation et à moins mettre aussi en avant notre ingénierie de projet. Ce qui fait que ça marche, c'est toujours l'engagement bénévole et salarié. Comme je disais, cette capacité à se renouveler qui est permanente. Et ce projet de formation des citoyens qui est toujours aussi clair, mais voilà, il y a aussi des difficultés et des enjeux actuels pour valoriser l'éducation populaire qu'on va aborder le 27 septembre, notamment lors de l'Agora.
Quand on parle de démocratie, on pense souvent aux urnes, mais justement la Ligue de l'enseignement, comme tu as pu nous l'expliquer, va au-delà de ça. Toi qui es chargée justement de projets jeunesse, tu penses qu'il est aujourd'hui peut-être important aussi de redonner aux jeunes le sentiment d'avoir leur place, retrouver sa place peut-être dans une société qui est un peu fragile et où on a des jeunes en perte de sens peut-être aussi, quoi.
Oui, tout à fait. En fait, je pose souvent la question en débat mouvant auprès de différents publics. La participation politique des jeunes doit-elle être encouragée? Et souvent, la réponse est assez mitigée. Les enfants, déjà, c'est catégorique, c'est non, ils sont pas capables. Et les ados, ça dépend. Il y a toujours débat parce que les ados seraient influencés par leurs parents. Donc, en fait, ouvrir une participation politique aux adolescents, ça serait juste des personnes endoctrinées par leurs parents. Donc, finalement. La première pensée, c'est le vote, mais à chaque fois j'élargis en disant je parle de participation politique, je parle pas de droit de vote. Et là s'ensuit le débat autour de qu'est-ce que c'est la participation politique, qu'est-ce qui est politique, s'engager dans une association, est-ce que c'est une participation politique, le droit de décider au sein de son accueil de loisirs, est-ce que c'est pas déjà une participation politique à l'échelle des centres d'intérêt, des lieux de vie des enfants? Donc à chaque fois, voilà, le débat s'enrichit en déplaçant le curseur de qu'est-ce que la participation politique, mais on sent que il y a peut-être des préjugés aussi qui rentrent là-dedans sur ce dont sont capables de faire les adolescents et les jeunes adultes. Les enfants également, c'est encore plus difficile de l'intégrer, mais il y a déjà une capacité d'action si on lui permet d'exister et de se développer. Et donc, c'est aussi une thématique que va exploiter les Francas lors du village associatif du 27 septembre.
Tu parlais tout à l'heure de numérique, puisqu'aujourd'hui, il faut le dire, on est dans un monde très numérique, très connecté. Est-ce qu'il est possible justement de rendre l'éducation populaire attractive et crédible pour les nouvelles générations via le numérique?
La Ligue de l'enseignement propose justement autour de la place Mettmann un espace de médiation numérique qui s'appelle Môle numérique, qui déjà le fait de maîtriser l'outil numérique et ses propres outils à la maison, quel qu'il soit, pour faire des démarches, pour s'informer, pour réagir. Enfin, c'est un levier d'expression citoyenne et c'est l'éducation. On voit aussi que l'éducation aux médias et à l'information est essentielle pour éveiller l'esprit critique. Donc, c'est complètement un sujet phare de l'éducation populaire et aujourd'hui qu'exploite la Ligue de l'enseignement. On verra comment cette thématique peut exister lors du festival, puisqu'il y a encore des réponses d'associations qui arrivent à ce sujet. Mais on va peut-être parler de numérique aussi le jour du 27 septembre.
Et alors, on parle de développer son esprit critique, et forcément, j'ai un peu envie de faire un focus sur les trois tables rondes qui auront lieu. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter un peu les trois thématiques qui seront abordées sur trois temps différents? Ça permet à l'auditeur un peu de se repérer et peut-être déjà noter le rendez-vous.
Oui, déjà à 11h30, donc on commence ce temps d'agora avec une première question simple déjà, qu'est-ce que l'éducation populaire? Avec un temps participatif qui s'intitule « Transmettre, agir, s'entraider, et si c'était ça l'éducation populaire ?» Et puis, à partir de 14h, enregistré d'ailleurs par l'autre radio, il y aura un nouveau temps intitulé « Quel modèle économique pour les associations d'éducation populaire ?» Donc, c'est un format à table ronde avec des personnes qui ont été identifiées aussi par le groupe de travail pour aborder cette thématique-là. Et puis, à 15h30, on aborde une dernière thématique. Peut-on réconcilier l'éducation populaire et la culture? Et toutes ces tables rondes seront ponctuées aussi par des récits d'initiatives, des témoignages de personnes qui ont mené à bien des projets d'éducation populaire ou qui sont dans une posture, une démarche d'éducation populaire.
Et alors, ce qui est important pour cette journée, c'est aussi d'avoir justement une dimension festive. Il y a aussi le concert de pouvoir d'agir à 17h ce jour-là. L'idée, c'est de créer un temps accessible à tous, une journée accessible à tous. On rencontre des associations, on rencontre des habitants et on se pose des questions ensemble.
Complètement. L'association Pouvoir d'agir, c'est une association de pères aidants, donc ça veut dire que elle accueille des personnes qui ont des troubles psychiques et qui viennent trouver dans l'association un accompagnement par d'autres personnes qui ont des troubles psychiques et non pas des professionnels, notamment médicaux, qui évitent aussi le rapport descendant de sachant et d'apprenant. Mais donc, la paire aidance, c'est une dynamique d'éducation populaire aussi. C'est assez différent de ce qu'on peut avoir l'habitude de rencontrer, parce que c'est vraiment sur le lien humain et dans le champ de la santé mentale. Donc, c'était aussi intéressant de pouvoir laisser la place à Pouvoir d'agir de donner ce petit concert. Et concernant cette place pour tous, c'est vrai que autant avec le vide-grenier qui vient d'une demande d'habitants organisée par une association locale que par les ateliers qui seront proposés, l'agora où on est plus dans un temps d'écoute réflexif, le concert, il y aura vraiment des manières différentes d'expérimenter l'éducation populaire et de se rendre compte que en fait elle fait plus partie de notre quotidien qu'on le croit et qu'elle a une dimension émancipatrice et politique, peu importe la manière de s'exercer.
L'accès au Festipop, est-ce qu'il est gratuit ?
Oui, tout à fait. Et alors, il n'y aura pas de restauration et de buvette assurée par nous-mêmes sur place, parce qu'il y a aussi des commerçants sur la place qui proposent leurs services également le samedi. Et puis, exceptionnellement, le Belvédère, qui est le restaurant d'insertion Place Mettmann, sera ouvert et aussi pourra proposer ses services. Donc, vous êtes aussi le bienvenu sur le temps du déjeuner.
Si l'auditeur de l'autre radio veut retrouver notamment par exemple les thématiques des différentes tables rondes ou retrouver l'ensemble des associations présentes, où est-ce qu'on peut retrouver ça ?
Sur le site de la Ligue de l'enseignement FAL 53 pour Fédération des associations laïques de la Mayenne. Voilà, sur le site de la Ligue, vous pourrez retrouver la programmation du Festipop.
Okay. Eh bien, merci en tout cas Florine d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci Margot.
Vous écoutez l'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio. Parfois, la vie ressemble à une partie d'échecs. On avance ses pions, croit tenir la stratégie et soudain, tout bascule. Un coup qu'on n'avait pas vu venir. Nicky en a fait une chanson, tendue comme une partie où tout se joue en silence. Voici Échec et Mat.
À 19h, j'ai bloqué sur un mec. 19 mois pour qu'il me sorte de la tête. Le garçon a la tête de requin. Ton nom est placardé sur toutes les grosses caisses. Je le vais sur mes grosses fesses. Je me suis paumé dans la boîte de nuit. Le DJ voulait pas passer mes sons. En même temps, j'aurais fait la même devant une meuf qui est aminée, pâteuse, pétasse, qui lui parle comme un moniteur de camp de vacances. Genre qu'avec des geekos, des dilos. Car je kiffe les mecs qui sont pas que des tamis. Mais j'avoue, j'ai vu la limite. Le dernier m'a poussé à bout de mes antivomitis. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. À deux doigts d'un échec et mat, mat, mat. Moi ça. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. Et puis, on vous tech. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Les gens qui boivent des bubble tea me dégoûtent. J'en fais partie. Au rayon mélancolie, je mets des kidramas même si ça me gêne. Je kiffe les courses et qui draguent même si ça me gêne. Je laisse les traces de transpi sur la selle. Ça me gêne et en même temps je trouve ça sexy. Comme une cravate au bout du cou, des cratères sur les genoux. Le revers de ma jupe raccourci pour toi. Pour faire passer le temps, chercher des stages au pif. Copiant collant les lettres de motivation. À attends, attends, laisse-moi faire encore un petit maison, juste pour écouter un dernier son. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. À deux doigts d'un échec et mat, 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 moi ça. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fail. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. Et puis, on voudra tech. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fail. Tu sais, je peux me forcer à écrire un truc qui te touche. Même si tu sais que si je veux, j'accouche. Tu changes de visage comme de caleçon. Un jour c'est bon, un jour t'es con. Comme quand t'aimes plaquer ma tête contre la plaque de la cuisinière. J'aimais l'idée que c'était pour me tenir chaud. Parce que sans toi j'ai froid. Sans toi je suis rien. Un guérisseur qui se rend que j'ai guéri seul. J'suis paumé comme la pomme pote au fond du frigo. Que personne n'ose plus toucher ni jeter. Car j'en vaux peut-être encore la peine. J'ai peut-être encore du potentiel. Moi j'y ai cru en tout cas. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. À deux doigts d'un échec et mat, 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 moi ça. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fail. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. Et puis, on voudra tech. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fail.
Chaque semaine, il y a ces livres qui passent de main en main, qui s'installent sur une table de librairie et qui, sans qu'on sache trop pourquoi, attrapent le regard plus fort que les autres. À Emily Ranjou, on appelle ça un coup de cœur. Et aujourd'hui, c'est celui-là qu'on vous partage.
Emily Ranjou, à Château-Gontier, vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Bonjour, eh bien, je vous emmène au Canada. Non, non, Christophe, ne fais pas l'accent québécois quand tu ne sais pas faire l'accent québécois. Bon, je reprends. Bonjour, je vais vous parler d'un très gros coup de cœur. Un coup de cœur léger, à la fois tendre, émouvant et drôle. C'est le nouveau livre de Laure Manel. Laure Manel, notre angevine préférée, qui revient avec un nouveau livre aux éditions Michel Lafon. Il s'intitule « Nos étoiles filantes ». Pourquoi j'utilise l'accent québécois ? Eh bien, c'est parce que notre personnage principal va se rendre au Québec. Dans des circonstances particulières, cette femme devait se rendre et vivre au Québec avec son mari. Malheureusement, son mari est décédé brutalement. Alors, perdue un petit peu en France dans sa tristesse et son chagrin, notre héroïne va quand même se rendre au Québec parce que c'était le projet qu'elle avait avec son mari. Alors elle va essayer de reprendre vie, de retrouver goût à la vie, tout en communiquant encore avec son mari en disant, tu vois, ce que je fais, bah, j'essaye de le faire pour nous, etc. Elle va rencontrer beaucoup de personnes extrêmement sympathiques au Québec et brique par brique, elle va se reconstruire. Et elle va aussi se reconstruire auprès d'un homme qui, lui aussi, a visiblement des secrets très douloureux. Alors, Laure Manel nous fait un peu du Virginie Grimaldi, à savoir, on rigole parce que l'accent québécois est drôle et parce que certains personnages sont véritablement drôles, et puis on est ému par cette femme et par sa trajectoire. Nos étoiles filantes, c'est un clin d'œil à une chanson des Cowboys fringants. Voilà, les Cowboys fringants seront peut-être la bande originale de ce livre que j'ai trouvé extrêmement plaisant parce que Laure Manel a véritablement du talent pour nous faire partir en voyage, pour nous faire vivre aux côtés de cette femme et pour croire à toute cette histoire de reconstruction. Ne manquez pas Nos étoiles filantes de Laure Manel aux éditions Michel Lafon.
Vous trouvez Aime lire en joue à 10 places Paul Doumer, à Château-Gontier ou et sur l'autre radio.
Le 28 septembre, dans le cadre des actions du mois du climat à l'Huisserie, place du Maine, on pourra découvrir une animation un peu particulière proposée par le CPIE de la Mayenne, Mon Jardin et le Climat. Donc c'est un outil ludique, interactif, qui invite à comparer deux visions du jardin. D'un côté, le jardin minéral fait de gravier et de dalles, où la végétation se fait plutôt rare. De l'autre, le jardin végétalisé, riche en arbres et en plantes, accueillant toute une biodiversité. Alors, un jardin minéral, est-ce encore vraiment un jardin ? C'est la question que j'ai voulu poser au CPIE, et Anaïs Lara qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Anaïs, merci d'être avec nous. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement peut-être ce qu'on appelle un jardin minéral et ce qu'on appelle un jardin végétalisé, pour rappeler à l'auditeur?
Oui, alors un jardin minéral, du coup, ça va être un jardin ce qui est assez classique, hein, finalement, où on a voilà des graviers, des dalles, où en fait on a peu de végétation. Par exemple, on peut retrouver un palmier qui n'est pas forcément une espèce très adaptée à notre climat. Et donc sur un jardin plus végétalisé, on va retrouver plus de vers, voilà, que ce soit de la tonte. Alors on peut gérer plusieurs hauteurs de tonte, voilà, avoir peut-être un coin avec une prairie fleurie qui accueille la biodiversité, des aménagements aussi, pourquoi pas une petite mare au fond de son jardin. Voilà, ça va être un lieu beaucoup plus accueillant pour la biodiversité, mais aussi qui nous permettra de nous adapter au climat de demain avec les fortes chaleurs qui s'annoncent.
Le 28 septembre, je le disais, vous proposez donc une animation interactive pour sensibiliser à ces enjeux-là. Comment le public pourra découvrir concrètement un peu cette comparaison entre ces deux jardins?
Alors du coup, sur mon stand, je vous invite donc avec cette image où il y a les deux types de jardins, ce qui invite à discuter. Et ensuite, il y a des modules aussi sur ce stand qui sont interactifs, c'est-à-dire qu'on a des petites plaquettes où on va avoir des manettes à pouvoir disposer dessus. Donc il y a quatre thèmes différents. On a un module sur l'intégration de l'eau de pluie chez soi, donc comment mieux infiltrer l'eau par divers aménagements que je peux vous présenter. On a un module aussi sur la biodiversité dans le jardin. Donc c'est la biodiversité ordinaire, c'est les insectes, les reptiles, les oiseaux qu'on peut retrouver dans son jardin. Et du coup, l'idée, c'est aussi d'échanger sur ce que les gens peuvent retrouver chez eux, en quoi c'est important et comment aussi mieux l'intégrer et la prendre en compte. Ça permet aussi de discuter sur les pratiques de jardinage. On a un module aussi sur la faune du sol, ce qu'on retrouve dans le sol, et parfois on est un petit peu surpris de voir toute la richesse, et aussi sur le calendrier de culture. Donc là, c'est des fruits et légumes à replacer suivant les saisons, pour voir qu'on peut vraiment cultiver plein de fruits et légumes toute l'année.
Quand on parle de jardin végétalisé, pour revenir un peu sur ce qu'on disait juste avant, on peut imaginer peut-être un jardin un peu plus sauvage ou désordonné, mais alors peut-être que c'est important de changer notre imaginaire pour y voir justement plutôt de la richesse plus que peut-être un laisser-aller.
Oui, c'est ça. C'est pas forcément un laisser-aller, justement. Ça peut être d'avoir plusieurs pratiques dans le jardin. Par exemple, d'avoir un petit carré pour la biodiversité dans son jardin, c'est-à-dire de laisser l'herbe pousser. Pourquoi pas de tondre aussi des chemins d'accès dans son jardin, des petits aménagements, un petit hôtel à insectes, faire le compost au fond de son jardin, pailler ses cultures. C'est vraiment des choses qui peuvent être toutes simples et pas forcément brouillons ou qui peuvent être très esthétiques aussi.
Aujourd'hui, toutes ces questions-là, heureusement, on en entend plus parler. Je pense que le grand public est de plus en plus sensibilisé. Par contre, il reste peut-être encore une part de paradoxe parce qu'on veut effectivement plus de biodiversité dans son jardin, mais pas trop d'insectes, pas trop de bestioles visibles quand même.
Oui, c'est sûr. Après, voilà, il existe aussi des pratiques écologiques pour lutter contre les ravageurs, hein, forcément, dans ces cultures au potager. On n'a pas toujours envie de les trouver. Mais c'est aussi tout l'intérêt d'attirer la biodiversité auxiliaire. Ce qu'on appelle auxiliaire, c'est les insectes, justement, qui vont attaquer ce qu'on appelle les nuisibles, du coup, et qu'on ne veut pas au jardin.
Est-ce que vous sentez parfois que ça touche justement à quelque chose d'un peut-être un peu plus intime? Quand on parle de notre jardin, du climat, ça interroge aussi peut-être notre rapport au temps, à l'effort, à la patience?
C'est ça. Et c'est tout l'intérêt en fait de se questionner, déjà d'apporter cette réflexion-là. Parce que le jardin, effectivement, c'est quelque chose de très intime et c'est parfois des choses qu'on n'a pas envie de partager ou qu'on n'a pas envie d'avoir d'avis extérieur dessus. C'est se questionner aussi son rapport à la nature, tout simplement, et sur comment est-ce qu'on voit l'avenir.
Le jardin végétalisé, vous le disiez tout à l'heure, vit au rythme plutôt des saisons, avec ses lenteurs, ses surprises, on peut dire aussi peut-être ses passages à vide. Est-ce que c'est pas justement aussi cette part d'imprévisible et de temps long qui parfois nous déstabilise aujourd'hui? On a oublié, on a perdu justement ce rapport au temps et à la nature.
Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'on veut toujours faire plus vite, plus performant, plus productif. Et finalement, c'est aussi de se poser et de se dire que la nature, on ne peut pas toujours la contrôler ou à quel prix. Et qu'il faut re-questionner ça et ses propres valeurs et se rendre compte que voilà, le jardin, c'est aussi un espace où on contrôle. Il y a beaucoup de paramètres qu'on ne contrôle pas. La météo, voilà, le climat qui change, les années plus ou moins favorables. Et c'est de composer avec ça et de se dire que ça fait partie du vivant.
Parfois, on se sent un petit peu impuissant. On entend beaucoup de discours comme ça face justement aux changements un peu environnementaux. On se dit, bon, bah, nous, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Parfois, on dit planter un arbre, c'est penser aux générations suivantes. Mais peut-être que choisir aussi un jardin végétalisé, c'est déjà aussi une manière de transmettre quelque chose de positif pour l'avenir.
Oui, complètement. Et ça peut paraître parfois, voilà, on se sent démuni, on ne sait pas quoi faire à son échelle. C'est des choses qui peuvent être vraiment simples et dans le cas du jardin, voilà, ça peut être simplement de réutiliser ses matières vertes au lieu d'aller à la déchetterie, les utiliser dans son compost, dans son paillage, faire du mulching, donc laisser la tonte de la pelouse sur place. C'est des petites choses qui font la différence et voilà, qui permettent aussi de se préparer au climat incertain de demain.
L'animation que vous allez proposer donc le 28 septembre à l'Huisserie, place du Maine, de 10h à 18h, je reprécise les horaires, c'est un outil qui repose sur des modules ludiques, interactifs. Ça change quelque chose peut-être d'apprendre aux plus jeunes aussi, en manipulant plutôt qu'en écoutant un simple discours?
Oui, c'est ça, c'est quelque chose de ludique qui est très visuel aussi et attractif. Et effectivement, ça parle aussi à tout le monde. Voilà, sur la biodiversité au jardin, on a la coccinelle, les insectes qu'on retrouve fréquemment. Ah bah oui, moi j'ai vu le cerisson dans mon jardin. Et ça permet aussi d'attirer un public un peu plus jeune et de les sensibiliser en fait à leur environnement.
Est-ce que peut-être parmi les différentes fois où vous avez pu proposer cette animation, est-ce que il y a quelque chose en particulier qui surprend le plus le visiteur, des questions qui reviennent plus régulièrement?
C'est, je dirais, le compost qui revient le plus régulièrement. Comment gérer son compost et avec ses petites difficultés. Alors, il ne semble pas trop mauvais. Je ne sais pas quoi mettre dedans exactement. Mais voilà, il y a des petites règles tout simples à appliquer et c'est quelque chose qui se fait très bien. Et finalement, voilà, pour ne pas se sentir dépassé, on a des petits conseils à donner là-dessus.
Et donc, pour pouvoir découvrir l'animation Mon Jardin et le Climat, eh bien, on donne rendez-vous à l'auditeur de l'autre radio le 28 septembre à l'Huisserie, place du Maine. Et ça se passe donc dans le cadre des actions du mois du climat avec le CPIE de la Mayenne. Merci beaucoup, Naïs, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Vous écoutez l'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio. Et puis, il y a toujours ce moment dans l'agité du vocal où l'on tend l'oreille autrement, Magnette entre en scène. Avec lui, les mots prennent un autre courant, comme attiré par une force invisible. C'est sa chronique, son regard, son aimant. C'est idéal pour un vendredi, vous ne croyez pas ?
La chronique de Magnette sur l'autre radio.
Bonjour toi. Tu le sais, j'aime trouver dans l'actualité des trucs qui redonnent de l'espoir dans ce monde qui marche sur la tête avec des absurdités plus grosses les unes que les autres. Et je me réjouis de constater que des trentenaires, pourtant bien casés, ont décidé d'un grand virage dans leur vie, histoire de pratiquer un métier porteur de sens, disent-ils. C'est ainsi que cette année 2025, ils sont 12, autant de nanas que de mecs, à se former à l'école de paludiers, à la Turballe. C'est Julien Manot, 44 piges, et lui-même ancien saunier paludier, qui est responsable de la filière saliculture à l'EFA, École de formation par expérience en agriculture. Et son rôle est de premier ordre, vu qu'il faut très bientôt remplacer les 90 pratiquants partant à la retraite. 90, ça fait quand même un bon nombre. Mine de rien, ou plutôt mine de sel, ce boulot a 2000 ans d'existence. Alors, Sophie a quitté Strasbourg suite à une visite guidée des marais salants à Beauvoir-sur-Mer. Idem pour Alexandra, venue du Lot-et-Garonne, pour visiter le musée de Basse-sur-Mer, et d'autres anciens banquiers, ingénieurs, paysagistes. Je souris parce que je pige la démarche. J'ai eu l'occasion d'arpenter ces étendues désertes et marécageuses en suivant une jeune passionnée qui guidait notre groupe. Et me souviens aussi de ce musée riche et non pas ennuyeux, comme c'est souvent le cas dans pas mal de musées, quoi. Une autre fois, et je ne te commence nullement un conte à dormir debout, une autre fois, avec quelques amis, nous avions été invités à se retrouver un soir d'été dans les marécages, décidément, on dirait du Higelin, par une jeunette musicienne. Et là, la fille faisait partie d'un quatuor de musique classique. Nous n'étions pas nombreux vu que l'événement n'avait rien d'officiel. Et tant pis, parce que tant mieux. Plus un mot. Un poil devant dans les herbes et les tiens qui se dressent sur tes bras. Des goélands qui survolent le marais. Un soleil proche de l'horizon et des reflets dansant à la surface de la flotte des étiers. Musique. L'instant était magique. Un temps suspendu dont je raffole. Bon, je casse le rêve. Pour un autre, ces nouveaux paludiers peuvent devenir assez rapidement leur propre patron et, je cite Julien Manot, la rémunération nette annuelle au départ se situe entre 24 000 et 30 000 euros. Dans les années 70, le métier était à l'agonie et les gens du coin, de Guérande ou d'ailleurs, se sont bougés le popotin pour rester le bastion du sel. Ce paysage unique que tu peux traverser en voiture, je l'ai fait à pied et aussi en vélo, et chaque fois que je repasse là-bas, je m'imprègne d'un truc étrange qui me fait un bien fou. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Passe-moi le sel. Topette. Alors, j'ai rien trouvé, j'ai pas pensé du tout à la musique. Si t'as un morceau de choix très actuel, on tranche complètement. Pas besoin de chercher par rapport au sel. Tu penses à quelque chose, là?
Un mec de Nantes.
Encore? Ah oui, bah, l'autre fois c'était une nana de Nantes.
Mais dit. Ça a un an ou deux, c'est plus un texte.
J'ai fait rouler tout ce que je pouvais. Mes idées, mes affaires. J'ai fait rouler ma vie pour pas qu'elle flanche en l'air. Rouler sur des roulettes sans rouler dans la farine. Faire parfois la fête sans faire la grise mine. J'ai été le boss, en trottinette ou en carrosse. J'ai roulé jeunesse, roulé dans l'herbe et roulé des clopes. Mais ce qui roule et que je préfère. Et vous savez, à ça, vous savez, c'est ce qui est le plus cher. C'est les billes dans le couloir. Avec mon frère. J'ai joué au rêveur, genre loup-garou, belle étoile. J'ai joué au routard, genre Milborne pleine balle. J'ai fait les cow-boys, style aventurier du rail. J'ai fait le pion, j'ai fait le fou. J'ai joué au roi, avec quelques dames. J'ai fait tapis, les jetons dans mon plumard. J'ai joué au barbu le matin, au trou du cul le soir. Mais le jeu que je préfère. Et vous savez, ah ça, vous savez, c'est lui le plus cher. C'est gratter un millionnaire comme deux abrutis. Avec mon frère. J'ai arpenté toutes les rues que je pouvais, le tout Shanghai en scooter électrique, les avenues de Paris en costard très chic, de jour, de nuit, de pont en barge. J'ai déambulé, parfois j'en ai pas mené large. J'ai couru la rue Jaurès. J'ai chéri la rue Madame. Mais la rue que je préfère. Et vous savez, ah ça, vous savez, c'est elle la plus chère. C'est celle qu'on dévale en skate à deux. Avec mon frère. J'ai dormi dans des palaces et des cages à rats. J'ai squatté des potes les soirs de Java. J'ai connu les apparts blindés de cafards, les colocs sans froc, les airs baroques, les airs hagards. Puis j'ai bossé de longues heures, j'ai mis des ronds de côté. J'ai pris une demeure pour vivre ma liberté. Mais la maison que je préfère, et vous savez, ah ça, vous savez, c'est elle la plus chère. C'est la cabane, le dimanche matin, dans la chambre, avec mon frère.
Le best-of de l'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous restez avec nous sur l'autre radio, voici ce qui vous attend ce soir à 19h. C'est le Dance Hall Social Club avec son club Oldies, des sucreries musicales venues du passé. Puis à 20h, cap sur Tempus Fugit, Fred et Plom y confrontent leurs univers musicaux, pop, rock brut ou alternatif, prog, psyché, hard et tous les pas que qui les rapprochent. Anecdotes, histoires, actualités, coups de cœur, une émission faite pour voyager dans le temps de la musique. Tout de suite à 13h, eh bien, place à Cinérama, un mélange d'infos et de jeux, des chroniques sur les sorties cinéma et DVD, des interviews de réalisateurs, de comédiens et même des blind tests sonores pour tester vos connaissances. Cette émission est bien sûr menée par Marine, Vincent et Emmanuel. Alors maintenant, je vous propose un petit coup d'œil sur le week-end avant de se quitter. Samedi à 11h, Instant Europe revient à l'antenne. Six jeunes venus d'Espagne, d'Italie, de Hongrie et d'ailleurs racontent leur année de volontariat en Mayenne entre doutes, découvertes et belles rencontres. À 13h, toujours samedi, Rock Dreams vous embarque cette semaine avec un focus sur les Pink Fairies. Et dès 14h, eh bien, vous écouterez une émission spécial en direct des embuscades depuis la salle des jeunes de Cossé-le-Vivien. On parle humour avec ceux qui le font vivre, organisateurs, bénévoles et artistes, et ce jusqu'à 15h30. Dimanche, nouveau direct, cette fois depuis Festigama, rendez-vous de 14h à 16h pour suivre l'événement sur nos ondes. Moi je vous dis à lundi pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. L'émission nous plongera en avant-première au cœur du festival J2K, puisque le hip-hop est né dans la rue, mais aujourd'hui il investit les scènes, les festivals. Qu'est-ce qu'il garde de cette énergie première brute qui l'a fait naître? Nous en parlerons ensemble. D'ici là, tenez bon encore un peu, le week-end n'est plus très loin, laissez-le venir. Eh bien oui, vous le méritez, s'il vous plaît, faites-le bien.
Fin de l'émission, mais pas de notre histoire.
Ah ben, surtout pas, Mimi.